Je me suis efforcé de proposer une esquisse, au moins, de phénoménologie de la mutation qui s'est produite au cours des années 1970 et qui a déterminé l'entrée dans le moment présent en nous faisant changer de monde. C'est le cas de le dire. Cette description avait pour but d'illustrer l'hypothèse qui me semble la seule à même de rendre compte de cette mutation sous l'ensemble de ses aspects, l'hypothèse de l'aboutissement dans le cadre européen du processus de sortie de la religion. Aboutissement dont a résulté une radicalisation structurelle de la modernité. Le foyer de la mutation, et j'essayais de faire ressortir, a été l'effacement de ce qui subsistait de l'immémoriale unité hétéronome qui continuait de conditionner la physionomie générale de l'être ensemble et l'expression de chacun des trois éléments ou vecteurs de la structuration autonome, le politique, le droit et l'histoire. Cette prégnance organisatrice de l'unité hétéronome se manifestait, par exemple, dans l'unité impérative des temps historiques, suspendant le présent à l'obligation envers l'avenir et à la dette envers le passé, et appelant à penser le présent, le passé, le présent et l'avenir comme formant une totalité sensée. Son effacement s'est traduit par le présentisme qui nous laisse sans lien palpable avec le passé et avec l'avenir, et qui plus profondément encore ôte sa signification à la perspective de penser passé, présent et avenir comme constituant une histoire avec un grand H. La prégnance organisatrice de l'un hétéronome se marquait dans la prééminence conductrice du politique, au titre de l'unité nécessaire du pouvoir et de la société, que ce soit sous l'aspect du surplomb autoritaire de l'État ou de l'appartenance contraignante à la nation. Son effacement s'est soldé par une liquidation de cette primauté, dont l'expression la plus éclatante a été l'autonomisation en règle de la société civile associée à la remise en question du pilotage étatique. La prégnance organisatrice de l'un hétéronome avait l'une de ses plus fortes attestations dans l'unité obligatoire de l'individuel et du collectif. Par la subordination de l'individuel au collectif. Son effacement s'est traduit par l'explosion de la logique individualiste et la consécration du principe de la précédence en droit de l'individuel sur le collectif. Si l'on résume, avant ce tournant, avant la mutation, le politique et l'histoire tenaient le haut du pavé. Ils étaient au centre des préoccupations. Après le tournant, tout se passe comme s'il n'existait plus, si ce n'est de façon résiduelle ou marginale. En tout cas, ils ne paraissent plus compter de manière déterminante dans l'existence collective. C'est l'élément du droit qui tient la vedette. en lien avec l'individualisation spectaculaire de la vie sociale et la priorité de l'économie libérée par l'autonomisation de la société civile. La question, à partir de ce constat descriptif, est de départager les apparences et la réalité. N'y a-t-il vraiment plus de politique et d'histoire, si ce n'est à titre de résidu d'un vieux monde destiné à disparaître? En réalité, il y en a plus que jamais. Mais sous un jour entièrement inhabituel par rapport à l'image familière que nous en avions et qu'il nous faut apprendre à déchiffrer. Ma thèse est que nous avons assisté, que nous sommes en train d'assister à la décantation structurelle simultanée de ces trois constituants de la modernité autonome. Et que c'est cette décantation qui crée le système d'apparence trompeur que nous appréhendons spontanément. Loin de nous présenter ces trois constituants à égalité, en quelque sorte, cette décantation engendre une méconnaissance à leur sujet. Et une méconnaissance qui n'est pas qu'un fait intellectuel, mais une méconnaissance qui touche au fonctionnement de nos sociétés, puisqu'elle commande la perception que les acteurs ont du domaine où ils évoluent. Cette méconnaissance, nous allons le voir, est directement à la source de ce que nous éprouvons confusément comme crise de la démocratie, sans bien en discerner la raison, puisque tout le monde, ou presque, dans nos sociétés, se réclame de la démocratie. Toujours est-il, en attendant d'en arriver à ce point, que nous devons intégrer cette dimension de méconnaissance dans notre analyse de la radicalisation structurelle de la modernité. Comment peut-il se faire que la décantation du politique par liquidation de l'empreinte hétéronome qui nous en voilait l'essence, comment peut-il se faire qu'elle ait pour effet de nous le dissimuler d'une autre manière, en nous faisant croire à sa marginalisation? Comment peut-il se faire que la décantation de l'orientation historique ait pour conséquence de nous faire croire à la disparition de l'histoire? Il faut rendre compte de cette espèce d'auto-occultation qui accompagne la radicalisation structurelle de l'histoire et du politique. En même temps, et surtout, il faut souligner le privilège que nous ouvre cette situation. Si nous savons échapper à ces pièges, pour la première fois, nous sommes en position de saisir, dans leur vérité complètement développée, ces produits modernes de la sortie de la religion, ces éléments organisateurs de l'autonomie que sont le politique comme tel, le droit comme tel et l'histoire comme tel. Le moins qu'on puisse dire étant que ce dévoilement change l'idée que nous pouvions nous en faire. Il rend possible un nouveau regard sur le monde humain social. mais il renouvelle de fond en comble aussi bien les termes de notre problème politique. Disons-en deux mots d'entrée pour indiquer la ligne à suivre. L'autonomie est d'abord une affaire de structure. Le projet d'autogouvernement, c'est-à-dire le projet démocratique entendu dans sa rigueur, tel qu'il a émergé confusément au sein de la modernité, a été jusqu'à présent un échec parce qu'il a méconnu cette donnée primordiale. Péché philosophique majeur, il a ignoré ou il ne s'est pas posé la question de ce qui le rendait possible. Il a pris deux visages principaux. Le projet d'autonomie a émergé dans l'élément du droit, disons avec Rousseau pour prendre un repère simple. Il s'est reformulé chez Marx dans l'élément social historique, à l'enseigne du communisme. C'est sous ce dernier visage qu'il a travaillé nos sociétés depuis la mi-19e siècle avec les aventures que l'on sait. Mais dans l'une ou l'autre de ces versions, il s'est révélé tantôt autodestructeur, tantôt irréel. Et je n'en accepte pas les tentatives plus récentes pour repenser le projet d'autonomie sur la base d'une critique sans concession de ses impasses antérieures, comme celle de mon regretté ami Castoriadis. Tous ces essais, si intéressants et sympathiques qu'ils ont pu être, sont restés en l'air, faute de se poser la question des bases structurelles qu'il pouvait avoir dans le monde qu'il se proposait d'accomplir et de dépasser. Du cadre politique en fonction duquel il prenait sens, de l'ordre juridique qu'il présupposait, ou du mode d'action historique permettant de les concevoir. Cadre, ordre et mode d'action dont la prise en compte invalidait d'avance ces projets ou les promettait à la dénaturation. Nous sommes passés, dans tous les cas, dans une troisième problématique, au-delà aussi bien des révolutions du droit que de la révolution sociale historique. Une troisième problématique, une troisième situation historique où ces vastes projets d'autonomie par la révolution paraissent s'être purement et simplement vidés de sens. Hors de quelques héroïques anciens combattants, il y en a toujours, qui s'efforcent de maintenir la flamme dans l'indifférence à peu près générale. Cette troisième problématique est celle justement de la complète décantation de la structuration autonome, qui à la fois fait ressortir la naïveté des projets d'autonomie antérieurs et donne le sentiment d'une organisation définitive et indépassable dans ses grandes lignes, même si toutes sortes d'aménagements et d'ajustements sont concevables à la marge. Ils sont précisément aujourd'hui l'objet de la politique, dont la réduction à un bricolage sans enjeu de fond explique le déclassement. Nous vivons dans l'ambiance d'une fin de l'histoire qui n'a même pas besoin de dire son nom, puisqu'elle a pour effet de disqualifier l'idée d'histoire. Mais derrière notre présentisme, il y a la conviction que demain sera certes différent dans son contenu, mais en dernier ressort, identique dans sa forme. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de s'en préoccuper, et surtout pas d'en attendre un renouvellement de la condition collective. Où l'on aperçoit rétrospectivement que ce qui conférait leur énergie propulsive à nos sociétés depuis deux siècles, c'était en fait la transition moderne. Le sentiment justifié, même s'il était peu éclairé, de l'inachèvement de leur organisation, de le sentiment de l'emprise continuée de l'ancien régime qui les empêchait d'être pleinement modernes. Ancien régime qui était en réalité le moule persistant de la structuration hétéronome. Eh bien, c'est fait. L'ancien régime est cette fois dissous sans reste. Nous sommes intégralement modernes, du point de vue, en tout cas, de la structuration collective. Et cela laisse nos sociétés dans l'asthénie et le désarroi. Sans plus d'autres perspectives que celle de l'accomplissement personnel. En somme, l'autonomie structurelle, une fois complètement dégagée, a pris le pas sur le projet idéal d'autonomie et l'a rendu vain. Question, l'a-t-elle pour autant définitivement tuée ? Il est permis de penser que non, et nous verrons pourquoi. Mais la situation où nous sommes oblige à reformuler ce projet une nouvelle fois, et à nouveau frais, en le greffant pour le coup sur la structuration autonome au lieu de l'ignorer. Une structuration autonome comprise et acceptée comme sa condition indispensable. L'autonomie structurelle est la condition de l'autogouvernement. Première proposition. Mais elle ne suffit pas. Seconde proposition, tout aussi cruciale. Non seulement elle ne suffit pas, mais elle peut nous détourner de l'autogouvernement. Elle peut même nous égarer radicalement. Voilà ce que la situation actuelle est en train de nous apprendre, même si la reconnaissance du fait peine à se frayer un chemin. Et en demeurant, on peut comprendre pourquoi. Autrement dit, l'autonomie structurelle n'est pas l'autonomie substantielle. Elle peut même nous tromper essentiellement à son sujet, en nous emmenant à l'opposé, la manière dont les éléments de l'autonomie structurelle réalisée s'ajustent entre eux et orientent concrètement la vie de nos sociétés, nous conduisent vers l'impuissance, la dépossession et pour finir l'autodestruction. C'est là que se situe la contradiction principale de nos sociétés, pour reprendre un vieux langage. Elle n'est plus entre le capital et le travail, comme on a pu longtemps croire. Elle est entre les moyens de notre liberté, ceux que fournissent les structures de l'autonomie, et l'usage que nous en faisons. C'est dire que nous ne sommes pas à la fin de l'histoire, mais au commencement d'une autre histoire, qui sera pour de bon l'histoire de la liberté. Ce que nous avons connu jusqu'à présent, comme histoire moderne, a été en réalité l'histoire d'une libération. Elle est finie. Nous sommes libérés, mais nous ne sommes pas libres pour autant. Nous avons les moyens d'une liberté dont il nous reste à apprendre l'usage, car nous ne savons pas nous en servir. Là commence véritablement le règne de la liberté. Car aucun déterminisme ne nous prédestine à faire un bon usage de ces moyens. L'échec est tout aussi possible que la réussite. À en juger d'aujourd'hui, nous sommes plutôt mal partis. Mais il n'y a aucune fatalité à cela. Telle est la leçon du présent. Les conditions de la liberté ne sont pas la liberté. Et, à bien y réfléchir, que vaudrait la liberté, en effet, si elle n'était que l'exercice d'un automatisme paresseux ? Elle est le sommet de la difficulté, sans surprise. Mais vous connaissez ma maxime favorite, il n'y a que ce qui est difficile qui est intéressant. Revenons maintenant à l'autonomie structurelle radicalisée, à ces structures d'un monde humain social autonome que nous pouvons tenir pour pleinement dégager ou en voie de plein dégagement. Je vais en proposer une première approche synthétique, étant entendu qu'en avançant dans l'examen de la manière dont ces structures se combinent et orientent l'existence collective, nous avancerons aussi dans leur exploration. Je les reprends dans l'ordre de leur apparition historique, politique, droit, histoire, parce que cet enchaînement dit quelque chose de leur nature, même s'il ne préjuge pas de la forme qu'est susceptible de revêtir leur articulation globale. Le politique, donc, d'abord. Le politique est à deux faces. Il regarde à la fois vers l'intérieur des communautés humaines et vers l'extérieur. Il concerne simultanément le mode d'existence des communautés humaines vers le dedans et leur mode de coexistence vers le dehors. Le concept approprié pour décrire, pour définir cette double fonction est celui de médiation. Le politique est proprement l'instance de médiation des communautés humaines avec elles-mêmes, au-dedans, et l'instance de médiation avec les autres, au-dehors. Les deux versants ont été également bouleversés par la liquidation de la structuration hétéronome qui continuait d'en conditionner l'expression. Elle a déterminé un parachèvement de la forme moderne de l'État-nation qui en révolutionne le visage. En d'autres termes, il y a du politique, d'une part, parce que les communautés humaines ont à se faire exister. Elles ne sont pas données naturellement. C'est là qu'on peut développer, ce n'est pas le lieu, mais je l'indique au passage, la différence avec les sociétés animales. Les communautés humaines ont à se faire exister. Elles ont, ce faisant, du pouvoir sur elles-mêmes. Autre différence intéressante avec les sociétés animales. Il y a du politique, d'autre part, parce qu'elles ont à assumer leur particularité irréductible. Il y a du politique parce qu'il n'y a pas et, à mon sens, ne saurait y avoir de société générale du genre humain ou de société universelle du genre humain, comme on le disait dans la tradition du droit naturel. Ce qui n'est, il faut le souligner tout de suite, aucunement incompatible, bien au contraire, avec l'unité du genre humain et avec le recours à des critères universels à l'intérieur de l'espace humain. Mais ce sont deux problèmes distincts. Nous arrivons ici à une grande et même très grande question, une question à la fois théorique et pratique, ô combien, qui pourrait bien être la question du siècle. La question des conditions de l'universel et de sa réalisation dans l'ordre humain. N'allons pas l'épuiser d'un coup, mais selon le mouvement d'approfondissement concentrique que l'objet nous impose, nous allons régulièrement y revenir sous de nouveaux angles. Mais il faut bien y entrer et en prendre une première mesure. Cette question a été au centre du mouvement ouvrier et socialiste depuis le départ, sous le nom d'internationalisme. La notion correspond d'abord à une série de refus facilement compréhensibles et partageables, refus du nationalisme chauvin, particulariste, xénophobe, voire raciste, refus par-dessus tout du bellicisme à l'injonction patriotique. Le mouvement ouvrier opposera la maxime fameuse « Les prolétaires n'ont pas de patrie ». Le premier programme du mouvement ouvrier est la solidarité internationale et la paix. Mais au-delà de ces refus évidents et restés longtemps d'une actualité cruelle, sur le plan maintenant programmatique, proprement dit, que veut dire au juste internationalisme ? La question est demeurée en fait entièrement ouverte, au-delà des déclarations de principes faciles. En bon marxisme, l'objet de la révolution communiste ne pouvait être que le dépassement du politique et l'abolition des États-nations, puisque leur unique fonction était d'être des appareils de la domination et de l'exploitation bourgeoise. C'est ce qu'annoncent les paroles de l'International, je les rappelle pour les jeunes générations qui ont pu ne pas être élevées avec ce cantique. Groupons-nous et demain, l'International sera le genre humain, la société générale du genre humain. Ou bien, dans une version plus modérée, l'internationalisme désigne-t-il un programme de coopération pacifique entre des États-nations maintenus, mais ouverts les uns sur les autres ? C'est la thèse défendue notamment par Jaurès dans ce beau livre peu lu qu'est « L'armée nouvelle ». Un titre, il est vrai, qui n'était pas porteur dans le contexte. Il est paru en 1913. On se souciait surtout à l'époque de l'armée habituelle, pas nouvelle. En théorie et en pratique, le problème national est demeuré, tout au long du XXe siècle, un immense point d'embarras de la réflexion socialiste. Et spécialement marxiste-léniniste, et plus largement du mouvement se rattachant à l'idée communiste dans la variété d'aspects qu'elle est susceptible de prendre. Il fallait composer d'un côté, en effet, le maintien des principes théoriques, et de l'autre côté, le soutien au mouvement nationalitaire, en particulier dans le cadre du processus de décolonisation, qui a donné lieu à d'intéressants mixtes d'internationalisme nationaliste. Je n'avais quelque peine à retrouver ces petits. L'internationalisme de principe n'empêchait pas, d'ailleurs, l'inféodation du mouvement communiste international aux intérêts nationaux très étroitement entendus de l'Union soviétique. Une Union soviétique à l'intérieur de laquelle la gestion de ses multiples nationalités était un casse-tête permanent pour les dirigeants. Sans parler du problème des pays satellites de l'Est européen après 1945. Et l'internationalisme n'a pas davantage empêché le divorce et la rivalité entre l'Union soviétique et la Chine en fonction d'intérêts nationaux divergents. La question revient aujourd'hui sous un jour très différent, beaucoup plus prosaïque, mais non moins pressant, avec la mondialisation économique. La globalisation n'annonce-t-elle pas la fin des États-nations, leur démembrement à la fois par le bas, au profit de systèmes de gouvernance locaux, métropolitains, régionaux, plus étroits, et démembrement par le haut, au profit de systèmes de gouvernance continentaux, si ce n'est globaux. Je vous dis tout de suite que la réponse est non, à mon sens, mais c'est là l'un de ces paris théoriques sur lesquels va se jouer le sort du siècle qui vient. Il faut parier, mon pari est que non, même si bien sûr il faut rendre compte de tous ces phénomènes qui transforment la place et le fonctionnement des États-nations. Je soutiens même, au contraire, que la mondialisation a tranché la question, au-delà des embarras où était demeuré l'internationalisme théorique du mouvement ouvrier, socialiste et communiste. Le monde mondialisé est un monde d'État-nation. Comprendre pourquoi nous ouvre à une intelligence approfondie du politique dans ce qu'il a d'indépassable, qui tient à la dialectique du particulier et de l'universel. Nous sommes voués à vivre dans des communautés particulières, et non dans la société générale du genre humain. L'international, pas plus capitaliste que communiste, n'est destiné à devenir le genre humain. Mais loin de nous enfermer dans la particularité, cette condition est à l'opposé ce qui nous ouvre sur l'universel. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans l'universel. Nous avons à réaliser l'universel, ce qui est profondément différent et ne peut se faire que sur la base de la particularité, dans un effort indéfini pour la dépasser, qui ne l'abolit pas. Voilà tout le paradoxe de la condition politique. Une analogie qui est beaucoup plus qu'une analogie à la vérité, et sur ce point éclairante, l'analogie avec le langage. Le langage est la désignation abstraite d'une faculté universelle que tous les humains ont en partage, mais nous ne parlons pas le langage. Nous parlons des langues au pluriel, des langues particulières. Il n'y a pas de langage général du genre humain. Et selon la magnifique formule très profonde d'un grand linguiste, Jean Gagnepain, que j'ai souvent eu l'occasion de citer parce qu'elle me paraît le mériter, les dauphins parlent le dauphin, les hommes ne parlent pas l'humain. L'essence du langage réside dans cette pluralité de langues spécifiques, aux règles parfois si éloignées les unes des autres que nous ne sommes pas parvenus à ce jour à constituer une grammaire véritablement générale qui permettrait de ranger tous les cas dans une typologie d'ensemble. Mais ces séparations entre les langues ne sont nullement insurmontables. Elles sont intercompréhensibles, elles sont traduisibles les unes dans les autres, et même ce qu'elles ont, culturel, du point de vue des formations culturelles qui sont logées, ce qu'elles ont de relativement intraduisible est susceptible d'un travail d'explicitation. On a pu faire un très beau dictionnaire des intraduisibles, notion philosophique élaborée, mais sur le plan littéraire, on peut expliquer pourquoi tel terme dans une langue ne peut pas avoir d'équivalent dans une autre. Mieux encore, à partir de ces langues dites naturelles, nous avons la possibilité d'édifier une langue artificielle, la langue mathématique, qui est, elle, authentiquement universelle. Mais c'est une langue au second degré, construite par écart avec l'équivocité de la langue naturelle qu'elle s'efforce précisément de purger. Mais ce n'est pas une langue habitable. Elle n'est pas un code partagé. Sinon, et encore à titre d'infime minorité, elle est une construction intellectuelle. L'analogie a ses limites, mais elle me semble parlante. La pluralité des communautés politiques est du même ordre que la pluralité des langues. Et elle a évidemment beaucoup à voir avec elle, même si les deux plans ne se recoupent pas, loin s'en faut. La pluralité des communautés politiques ne les empêche pas de se comprendre, ni de poursuivre des objectifs communs. Elle ne leur interdit pas de viser au-delà d'elle des idéaux universels, mais des idéaux qui relèvent semblablement d'un travail d'élaboration au second degré, dont leur particularité de premier degré est en réalité la condition. Que nous aurons à éclaircir dans la suite, c'est la nature et l'objet de ce travail de l'universel au sein des communautés politiques particulières. J'y faisais allusion à l'instant, la mondialisation est à regarder, au-delà des images convenues et justes de la globalisation économique et financière, comme un phénomène fondamentalement politique. Elle est l'expression du parachèvement de la forme État-nation sous l'aspect de sa généralisation mondiale. L'État-nation est devenu, dans la période toute récente, la forme politique habituelle, normale, commune, la seule concevable désormais à l'échelle de la planète. Planète répartis maintenant, sans zone vacante, en quelque 200 unités politiques. C'est cette mise en forme politique de l'espace planétaire qui sous-tend la globalisation économique. C'est ce système mondial des États-nations qui lui procure son infrastructure politique. À la racine de cette mondialisation de l'État-nation, il y a cette expression, certainement de toute la plus cachée, de l'ultime tournant théologico-politique de la modernité et de l'empreinte hétéronome, et de la dissolution de cette empreinte hétéronome, ce phénomène capital qu'est la désimpérialisation du globe. L'éviction définitive de la forme empire du cercle du concevable et du praticable politique. J'ai souvent eu l'occasion de le souligner ici, il y a des disparitions qui sont des événements bien plus considérables que les apparitions sur lesquelles notre attention se focalise tout naturellement. C'est le cas de cette évacuation de l'empire de l'horizon. Elle donne la mesure de la nouveauté de notre présent. Car l'empire était, depuis les quelques 5000 ans qui nous séparent de la révolution religieuse constituée par la naissance des États, l'horizon suprême du politique. La forme accomplie de l'un hétéronome sous les traits de la réunion de la totalité des hommes, ou en tout cas de tous ceux dignes du nom d'homme, en pratique on opérait un petit tri qui facilitait les choses, la réunion de la totalité des hommes sous un pouvoir unique, capable de ce fait de réaliser pleinement l'union de la terre et du ciel, l'union de la sphère visible et du fondement invisible. Nous avons vu par le passé comment ce rêve impérial aura été encore à l'œuvre en plein XXe siècle sur le sol européen, derrière les phénomènes totalitaires qui ne s'entendent pas sans sa présence souterraine. Le rêve impérial a été l'âme des religions séculières du XXe siècle. Nous avons vu de la même manière comment, sous une forme plus bénigne, il était à l'œuvre derrière la projection coloniale des métropoles européennes. Projection coloniale des métropoles européennes qui a donné lieu à la première mondialisation des années 1880-1914, la mondialisation impérialiste. celle que décrit Lénine dans ce livre qu'il faut avoir lu. C'est probablement l'un des livres les plus influents du XXe siècle. L'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Pour le dire d'un mot, ou de quelques mots, il faut substituer à cette interprétation économique obsédante de l'impérialisme colonial une interprétation politique. Les nations européennes qui, Angleterre et France en tête, qui excluent entre elles la possibilité de l'Empire, projettent le schème impérial qui continue de les habiter sur le reste du monde. Première mondialisation qui a créé les bases de l'unification opérationnelle du globe sur la base de laquelle a pu se déployer la seconde mondialisation, la nôtre, celle que nous avons vue se déployer et s'approfondir depuis les années 1970. Sauf que cette seconde mondialisation est placé sous un signe inverse de la première. La décolonisation est passée par là, et quelques autres faits de moindre rang avec elle. Cette seconde mondialisation est à base d'effacement de la forme impériale et de diffusion du polycentrisme national. Sa dynamique exclut toute unification par une domination exercée d'en haut. Nous pouvons le mesurer tous les jours. Cette dynamique s'est manifesté par ce fait qui ne reçoit pas l'attention qu'il mérite ou qui n'est pas compris dans les termes où il devrait l'être, que nous avons eu sous les yeux il n'y a pas longtemps, la dissolution du dernier empire en bonne et due forme qui subsistait à la surface du globe, l'empire soviétique. C'est un peu plus que la chute du mur de Berlin, qui sert de repère conventionnel pour cet événement. Cette dynamique de la désimpérialisation se traduit aujourd'hui dans le retrait et la relativisation du rôle de la République impériale des États-Unis. Pour reprendre l'expression de Raymond Aron, je vous recommande ce livre, La République impériale, qui est un livre d'actualité, mais qui au-delà comporte une analyse de l'histoire américaine qui me semble toujours très instructive. Les États-Unis n'ont jamais été un empire à proprement parler, et n'ont jamais eu vocation à le devenir. Mais c'est une nation à part des autres, dont la vocation exceptionnelle s'est déployée au XXe siècle dans une dimension impériale incontestable qui se trouve aujourd'hui sur le reculoir. La désimpérialisation a aujourd'hui une autre de ces expressions spectaculaires dans la transformation du très original empire chinois en nation. C'est dans le cadre de la même désimpérialisation, enfin, qu'il faut comprendre cet autre fait capital du moment présent que les stratèges appellent la fin des guerres majeures. Non pas la fin des hostilités armées, mais la fin des conflits frontaux entre nations, mobilisant la totalité de leurs forces, du type de celles dont les deux guerres mondiales du XXe siècle ont à jamais fixé les traits. L'escalade clausewitzienne vers des conflits toujours plus extrêmes que la guerre froide avait prolongé jusque dans les années 1980, sous les traits paroxystiques d'un conflit nucléaire et de la menace d'une destruction mutuelle assurée, c'est le fameux acronyme MAD, cette ascension aux extrêmes est derrière nous. En réalité, pouvons-nous désormais comprendre rétrospectivement ces conflits du XXe siècle ne tenaient pas à la forme nationale, contrairement à ce qu'on a pu croire et qu'on continue de ressasser. Ils tenaient à cette part impériale, hétéronome, qui continuait de les habiter à des degrés divers. La décantation complète de la forme État-nation révèle un autre paysage et une autre logique. Les États-nations pleinement développés ne sont pas faits pour la guerre, mais pour la paix. Deux prolongements empiriques d'actualité à cette analyse et un prolongement théorique. En premier lieu, cette généralisation de la forme État-nation arrive dans certaines contrées du globe, je pense en particulier à la malheureuse Afrique, mais à certains égards, le Proche-Orient relève d'une analyse comparable sur certains points. La généralisation de la forme État-nation arrive comme une imposition d'en haut sur des terrains non préparés où elle n'a aucune base. D'où les phénomènes de faillite qui devraient être faciles à comprendre, qu'il nous est donné d'observer. Et en effet, ce ne sont pas là des structures qui se parachutent en kit avec notice de montage en espéranto ou en globiche. Il a fallu 1000 ans en Europe pour les bâtir. Il est concevable qu'elles n'aillent pas de soi pour des gens chez qui elle arrive de tout à fait ailleurs. C'est là qu'une théorie politique bien informée pourrait être de quelque utilité au lieu des recettes débiles colportées par les pitoyables organisations internationales actuelles. Deuxième observation, cette mondialisation de l'État-nation et par l'État-nation est aussi le vecteur structurel de la diffusion planétaire de la sortie de la religion. C'est par ce canal que la sortie de la religion arrive partout et qu'elle touche de fait tout le monde. On ne peut plus y échapper. Il n'y a plus de zone hors du monde constitué par ces structures politiques. C'est là l'une des nouveautés majeures. Nous sommes dans un monde sans dehors, sans compartiment. Il est partout présent. Il est vrai que ce n'est pas écrit dessus. Quand arrive la forme État-nation, on ne voit pas le rapport avec la sortie de la religion. Les deux choses sont à première vue sans rapport. Il n'empêche que s'approprier l'État-nation, comme tous y sont obligés d'une manière ou d'une autre, c'est s'approprier la mise en forme du politique déterminée par la sortie structurelle de la religion. Quand cela intervient dans des sociétés dont les membres continuent, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, d'évoluer existentiellement et intellectuellement dans un univers de représentation et de référence religieuse, il s'ensuit une discordance dont on conçoit aisément qu'elle provoque des réactions, qu'elle soit un facteur de trouble et de mobilisation. Beaucoup des fermentations et des effervescences réactives à caractère religieux qui travaillent aujourd'hui la planète prennent là leur source. Ces réactions peuvent aller d'ailleurs jusqu'au rejet de la forme État-nation. C'est ce qu'on est en train de commencer à observer dans l'ère islamique avec le retour du califat, c'est-à-dire en fait de la forme impériale. Même si le phénomène pour le moment ne va pas très loin, il est en lui-même significatif. Je me permets de vous renvoyer à ce propos à un excellent article de Mathieu Guider qui s'appelle justement « Le retour du califat » dans le dernier numéro du débat. Sur le plan théorique maintenant, troisième observation, cette généralisation de la forme État-nation oblige à reconsidérer son statut dans le répertoire des formes politiques. Jusque-là, il était possible de la regarder comme une figure parmi d'autres de ce répertoire, à côté de la cité, du royaume, de l'empire, justement. il me semble que ce n'est plus le cas. Il faut réviser et surtout historiser notre typologie. Il y a eu un premier âge des sociétés religieuses sans État, dont la forme politique unique, même si susceptible de beaucoup de variétés dans l'expression, la forme politique adéquate à leur organisation segmentaire, une expression qu'on peut discuter mais qui descriptivement correspond à une réalité, cette forme politique unique qu'était la tribu, un concept qui demanderait à être soigneusement redéfini, élaboré, mais qui somme toute est le plus praticable ici, par rapport à toutes les alternatives qu'on a pu chercher à lui trouver. Il y a eu un deuxième âge de ce qu'on peut appeler les états religieux, des appareils de domination à légitimation religieuse. C'est dans ce cadre, et dans ce cadre seulement, que l'on a une variété significative de formes politiques autour de trois foyers. La cité, le royaume, l'empire. Pour des raisons fondamentales, dans ce cadre, il y a instabilité de l'interaction entre pouvoir et religion. Cela donne à une extrémité la contraction de la cité, et à une autre extrémité, l'extension maximale de l'empire, avec entre les deux l'illusion de stabilité du royaume. Remarquez, puisque nous parlions du califat à l'instant, que l'on a dans l'ère islamique un équivalent ou un analogue de ces trois formes sous les noms bien connus du l'émirat qui correspond en gros à la cité, du sultanat qui correspond en gros au royaume et du califat qui correspond en gros à l'empire. Pendant longtemps, on a pu penser insérer les nations dans cette typologie comme une quatrième forme, en quelque sorte, qui serait venue s'intercaler entre ces trois formes de base. Avec la décantation complète et la généralisation de l'État-nation, au passage, c'est le doublet qui compte. Si on s'est égaré dans les débats sur la nation, c'est parce qu'on ne considère que la nation. Et or, la nation comme forme politique va de pair avec la forme politique État. C'est les deux qu'il faut considérer ensemble. Avec la décantation complète de cette forme, nous passons, à mon sens, dans un troisième âge. Et nous retournons à une forme politique unique, comme à l'âge de la tribu. La seule variation significative, non pas structurelle, mais fonctionnelle, étant la taille. La taille. Il y a des petits et des grands États-nations. Et cela fait fonctionnellement des différences essentielles. L'Europe offrant à cet égard un terrain d'observation privilégié. Mais entre Singapour et la Chine, vous avez aussi des parallèles intéressants. Il est à noter que la forme État-nation absorbe et combine des traits des trois formes de l'âge précédent. La cité, le royaume et l'empire. Vous trouvez dans la nation des caractères de la cité, des caractères du royaume et des caractères de l'empire. Elle est une forme synthétique à de certains égards, et cela contribue aussi à expliquer qu'elle puisse s'imposer comme la seule. Si l'on se tourne maintenant vers l'ordre interne, la transformation n'est pas moins gigantesque. L'évanouissement de ce qui subsistait de structuration hétéronome se traduit par l'effacement de ce qui continuait envers et contre tout d'inscrire le politique dans le registre de la domination. Principes modernes ou pas, le politique conservait l'allure d'une instance irréductiblement faite pour commander, subordonner et ordonner d'en haut. Le pouvoir n'était plus supposé répercuter un ordre de plus haut, un commandement du ciel ou une volonté divine tombant de l'au-delà, il n'empêche que même une fois le gouvernement devenu représentatif et donc émané d'en bas, formé par les citoyens, conçu comme la représentation de la société, même alors, il gardait l'allure et l'autorité qu'il devait millénairement à sa position de médiateur avec le fondement transcendant. Il n'y avait plus de transcendance, mais il continuait d'être tenu comme si. Parce que c'est cela fondamentalement la domination à l'intérieur de l'histoire humaine. Ce n'est pas un simple rapport de force, c'est un rapport de force appuyé sur une légitimité absolue qui rend la force qui s'impose indiscutable. Eh bien, c'est fini. Cette supériorité ultimement d'essence sacrale s'est dissipée pour de bon. Non pas du tout que le politique ait disparu en perdant cette altitude dominatrice. Au contraire, il tient un rôle plus crucial que jamais dans la vie de nos sociétés, mais radicalement différent de celui sous lequel nous avions coutume de l'identifier. Il était la superstructure par excellence, il a basculé dans l'infrastructure. Il était l'instance de médiation de la collectivité avec l'extériorité fondatrice, avec le plus haut qu'elle. Il est l'instance de médiation de la collectivité avec elle-même. Il était l'instance en charge de déterminer l'ordonnance de la collectivité. Il est l'instance en charge d'instituer l'espace-temps collectif, à charge ensuite pour les acteurs de définir l'organisation, le contenu qu'ils entendent donner à cette socialité pure qu'il revient aux politiques d'instituer. Entendons-nous bien, ce contraste schématique que j'utilise à des fins de clarification ne doit pas tromper. Il n'y a pas eu apparition soudaine de propriétés jusqu'alors inconnues. Elles étaient en gestation depuis longtemps et nous avons d'intéressants débuts de description de leur développement. Mais elles restaient dissimulées pour le principal derrière des apparences traditionnelles. Le reste de prééminence superstructurelle que conservait le pouvoir cachait le rôle infrastructurel croissant de l'État-nation. L'allure verticale de médiation classique avec le ciel masquait le travail horizontal de médiation de la collectivité avec elle-même. L'étreinte ordonnatrice et législatrice à l'ancienne voilait le travail d'institution proprement dit qui s'effectuait sous son couvert. Sur ce point, comme sur les autres, il n'y a pas eu invention ou surgissement de quelque chose qui n'existait pas auparavant. Il y a eu décantation finale d'une longue genèse obscure, décantation de la fonction instituante et médiatrice du politique. Pour la première fois lisible pour elle-même dans l'histoire humaine. On ne saurait trop souligner la portée du fait. Il est le fait qui donne la mesure de ce que nous sommes en train de vivre. Il se joue là un événement d'une importance comparable, à mon sens, à la révolution religieuse du surgissement des États il y a 5000 ans. Cet ultime tournant théologico-politique de la modernité, le tournant de la décantation de la structuration autonome, nous fait entrer, ni plus ni moins, dans une troisième configuration de l'établissement humain social. La première de ces configurations, de loin la plus longue, celle des sociétés dites sans État, peut être caractérisée sommairement par le recouvrement du politique par le religieux. Tout se passant comme s'il n'y avait pas de politique. C'est le religieux qui fait fonction d'instituant. Il tient la place du politique s'agissant de définir et de faire tenir ensemble les communautés humaines. La deuxième configuration, celle qui nous est familière, en fait, celle où nous avons tous nos repères, commence avec la naissance des États. Elle repose sur un partage des tâches et sur une complémentarité entre le religieux et le politique. cet âge du politico-religieux a duré jusque tout près de nous, jusqu'à notre ultime tournant théologico-politique. Celui-ci nous fait passer dans une troisième configuration. Le politique sans la religion et à la place de la religion. Pour la première fois, le politique se retrouve seul en charge de l'institution de l'être ensemble et de la mise à disposition de l'être ensemble pour ses acteurs. Le phénomène remarquable étant que cela le rend d'une certaine manière invisible aux acteurs en question. Il ne s'impose plus à eux d'évidence, il ne les contraint pas directement, il n'occupe plus le sommet de l'édifice social. Bref, le politique a perdu sa visibilité intrinsèque, pourrait-on dire. Il était ce qui se voyait le plus. Il est devenu ce qui se voit le moins, en devenant l'infrastructure fonctionnelle au travers de laquelle nos sociétés se produisent et s'appréhendent. Nous aurons à revenir sur les raisons de cette occultation, de cette auto-occultation d'une certaine façon de la place du politique dans le fonctionnement de nos sociétés, car elle est très lourde de conséquences. Je me contente d'une suggestion à ce stade. Cette auto-occultation est inhérente en dernier sort à son rôle médiateur. La médiation verticale, ancienne, avec l'autre, l'autre avec un grand A, est en relief par nature. La médiation horizontale avec soi tend en revanche vers l'invisibilité. Elle fait croire à la proximité immédiate de soi avec soi. Et nous verrons, nous prendrons quelques expressions de ce fantasme de l'immédiateté qui travaille au plus haut point l'imaginaire des sociétés actuelles. Je voudrais dire encore quelques mots pour conclure. Sur les corrélats et les effets en chaîne de cette métamorphose structurelle et très précisément infrastructurelle du politique. Ces corrélats et ces effets s'observent dans quatre directions. Nous aurons l'occasion de les reprendre, mais parce que vous verrez que chacun d'entre eux nous emmène très loin. Mais il me paraît utile de compléter la description dès à ce stade, même si je devrais en rester à des indications hâtives. Premier effet, je l'ai mentionné incidemment, de cette métamorphose du politique, elle s'accompagne de l'autonomisation en règle de la société civile. Le principe de l'indépendance de la société civile, était acquis de longue date, il n'empêche qu'elle demeurait sous la coupe, sous la domination, au sens propre, de l'État. Elle restait prise dans un encadrement politique dont l'État-nation constituait la clé de voûte. La société civile est devenue, pour de bon, une sphère des libertés privées, réglée par les accords entre les individus, le contrat explicite ou tacite, et l'autorégulation de leurs transactions, les marchés de toute nature. C'est ici, bien sûr, qu'il faut relier la métamorphose du politique et les transformations du droit et de l'histoire. C'est à partir de là, en particulier, que la place de l'économie devient véritablement intelligible et son évolution dans le cadre de nos sociétés. Ce n'est pas le capitalisme qui a rendu la société civile indépendante, c'est l'indépendance de la société civile qui a fait une place royale au mécanisme capitaliste. L'analyse est fort différente et conduit à des conclusions extraordinairement opposées à celles qui sont généralement proposées. Deuxième ligne, deuxième prolongement, parlons, qui nous fait toucher au droit, justement, cette autonomisation de principe de la société civile s'accompagne de son individualisation sous le signe du droit. La société civile s'émancipe de l'État, les individus s'émancipent à l'intérieur de la société civile. Les deux mouvements sont structurellement corrélés. Lesquels individus restaient largement encadrés et commandés dans des appartenances de groupe et se trouvent pour la première fois, pour de bon, déliés. C'est ici que la dynamique de l'individualisation de droit trouve toute sa place. Troisième prolongement, il s'ensuit un changement décisif dans le rapport entre pouvoir et société. Le gouvernement devient intégralement représentatif. Il devient pour de bon l'émanation de la société. La politique représentative s'émancipe complètement du politique, avec toute une gamme de nouveaux problèmes, dont le problème des rapports entre l'État et le gouvernement. Jusqu'alors conjoints et qui tentent à se disjoindre, mais aussi un problème de représentation. Que veut dire représenter dans le gouvernement représentatif? Qu'est-ce qui est à représenter? Ça passait pour aller de soi, et nous nous apercevons que c'est un abîme de perplexité. Last but not least, quatrième prolongement et dernier, l'autonomisation de la société civile en bas s'accompagne de l'autonomisation de l'espace public en haut. Notion d'espace public qui acquiert dans ce contexte sa véritable consistance qui restait jusqu'alors floue. En devenant espace public médiatique. Espace public, il faut entendre la sphère des représentations que la société, par l'intermédiaire de ses acteurs, se donne d'elle-même et la sphère des idées susceptibles de la guider. C'est ce domaine relevé jadis du fondement transcendant, conjoint au pouvoir et conjoint à la société, ce pourquoi il n'y avait précisément pas d'espace public, ce pourquoi l'espace public était inconcevable dans le cadre de la structuration religieuse, puisque les représentations légitimantes étaient supposées devenir la substance même des rapports sociaux. C'est quand l'écart se creuse et que la sphère publique émerge en devenant, pour de bon, indépendante, que son rôle se déclare avec toute la question de la manière dont ce domaine des représentations, de l'information, de la réflexion, peut jouer un rôle effectif, effectuant, dans la vie sociale. Ces prolongements ne sont là indiqués trop vite que pour simplement faire ressortir l'ampleur du changement de structure qui est derrière ce qui nous trouble dans le fonctionnement de nos sociétés. Car si l'on met bout à bout l'ensemble de ces changements dans l'organisation et dans le mécanisme des sociétés, on mesure l'ampleur du trouble qui en résulte. L'énorme confusion ambiante, caractéristique de nos sociétés, ne me semble avoir d'autres raisons. Elle ne tient pas à une confusion particulière des esprits, elle tient à un changement de régime dans la manière dont la mécanique collective fonctionne. Nous n'y retrouvons pas nos petits, tout simplement. Mais nous allons apprendre.
Ma question porte sur deux situations marginales. La première que vous avez évoquée, qui est le califat, est-ce que pour vous c'est un phénomène limité dans le temps ou dans l'espace, ou est-ce par le fait que le phénomène islamique existe en Europe, il peut y avoir des contagions et des conséquences sur les phénomènes que vous avez décrits, ou un espèce d'internationalisme religieux en réaction à l'islam, l'individualisme qui diminuera un peu, est-ce que ce spectre peut avoir une influence, ou est-ce que, dans une vision longue, tout ceci passera? Et le second phénomène, qui est évidemment important, c'est celui de Poutine et de sa tentative de revenir à Alexandre III et revenir à un empire russe avec l'appui de l'Église orthodoxe, parce que là aussi, pour vous, ce sont des espaces très limités et qui n'ont pas à voir des effets durables sur le reste de l'évolution majeure que vous avez.
Nous sommes là sur un terrain où le bon sens simple commande le refus de toute assertion catégorique. Mais, je vous exprimerai donc un sentiment qui n'a aucune prétention définitive. l'exportation du califat hors de la zone islamique, alors là, ça, je n'y crois pas du tout. Mais en revanche, l'émergence du thème, qui ne se limite pas à l'État, dit État islamique, hein, puisque c'est un phénomène qui a une extension beaucoup plus large, il y a un califat en Afrique. Hein. Témoigne du choc de la mondialisation comme généralisation de l'État-nation. Il arrive là, dans le monde islamique en particulier, comme le révélateur de la contradiction très profonde qui existe entre deux mouvements propres à cette région. L'héritage de l'Oumma musulmane traditionnelle, c'est-à-dire une communauté de croyants dotée ou qui est le répondant sur terre de l'unicité divine, donc qui a une vocation spécifique à une unité organique, et le mouvement par ailleurs engagé maintenant de longue date, de nationalisation des sociétés du Maghreb et du Moyen-Orient. Les deux qui pénètrent inexorablement, dont les révolutions démocratiques arabes récentes ont été une expression, témoignent justement du fait qu'à l'intérieur d'un État-nation, le pouvoir est représentatif par définition. Aussi bête que ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Ça ne définit pas nécessairement la démocratie, mais ça définit au moins une exigence minimale de ressemblance entre le pouvoir et la communauté à laquelle il s'applique, hors de laquelle il n'a aucune légitimité. Donc là, on est... Comme ces États, pour toutes sortes de raisons et dans des conditions très diverses, qui à chaque fois il faut analyser très précisément la région, l'histoire, le contexte, la sociologie de ces sociétés, mais comme il est vrai, en même temps que cet mouvement de mise en forme stato-nationale pénètre, il heurte de front à un moment donné la structuration spécifique à l'islam qui met l'accent sur l'unité de la communauté, l'unité mondiale, hein, au-delà de, elle n'est pas géographique, elle est spirituelle, des croyants. Donc c'est un phénomène vraiment très significatif. Au passage, j'en profite pour vous signaler un livre très suggestif, très intéressant, sur la difficulté précisément de la construction de l'État-nation dans cette région, dans l'ère islamique, qu'est le livre d'Ali Mezghani, qui s'appelle « L'État inachevé », qui est très révélateur. Ali Mezghani est tunisien et il parle principalement, disons, de la zone Maghreb jusqu'à l'Égypte, hein. Mais son analyse me paraît avoir une portée qui va encore plus loin. Alors, le cas Poutine, là, me paraît illustrer tragiquement l'incapacité à la réflexion politique des Européens d'aujourd'hui. Ce qu'on a pu lire sur cette affaire relève de la franche démence dans la plupart des cas. Tout simplement, on avait une grille éprouvée, celle de la guerre froide. Pourquoi se fatiguer à aller lire des choses nouvelles? On recommence, on a tout ça en magasin et on nous resserre la sauce comme si de rien n'était. Poutine n'est ni Brejnev, ni un tsar, ni Staline a fortiori. C'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. C'est d'abord d'ailleurs quelqu'un qui, c'est hélas pour lui, tant mieux pour nous, quelqu'un qui a un fort problème de légitimité intérieure, et qui cherche désespérément à s'accrocher aux branches avant que l'arbre ne tombe. C'est ça son problème principal. On ne peut rien comprendre à cette affaire si on ne se resitue pas. Bon, alors, il y a des données empiriques, historiques. Du point de vue russe, le berceau de la Russie, c'est l'Ukraine. Donc il y a là un enjeu tout à fait spécifique, hein, pour des raisons à la fois religieuses, ethniques, compliquées. Mais du point de vue de l'analyse historique aujourd'hui, c'est-à-dire la question de savoir ce qu'il y a derrière le phénomène Poutine, il faut comprendre que la situation très particulière de la Russie, c'est le dernier empire de l'histoire en bonne et due forme, qui est jeté dans une transformation gigantesque qui consiste à devenir une nation. C'est le dernier pays européen engagé dans ce processus, qui généralement fait de la casse. Nous avons un mauvais exemple à côté de nous qui a été celui de l'Allemagne, qui n'est pas inspirant de ce point de vue. Donc c'est effectivement un processus dangereux. Ça, nous le savons. Mais c'est pas on n'est pas dans un processus, c'est pas en tant qu'en reconstitution d'un empire qui pose problème. Parce que de ce point de vue-là, ils avaient une toute autre politique, les tsars, hein, on la connaît assez bien. C'est ce processus de transition par rapport auquel il faudrait précisément se situer, au lieu de nous resservir des discours ineptes qui viennent du magasin des antiquités, qui n'ont aucun rapport avec la réalité que nous avons sous les yeux. Impossible de dire justement ce qui peut se passer, mais le paramètre le plus dangereux de la situation me paraît être l'impéritie et la bêtise des Européens, qui ne font que des conneries, absolument dans tous les sens et à tous les moments. À commencer par un discours complètement inapproprié, à la fois par mou quand il faudrait être dur et dur quand il faudrait être mou. Voilà. Mais ça, c'est la situation générale de l'Europe d'aujourd'hui. Moi, dans la même ligne, juste un mot pour finir là-dessus, la situation qui, à l'échelle du monde, me paraît dans le genre la plus dangereuse, c'est pas celle-là, qui me semble somme toute limitée, si on s'y prend bien, mais même si on sait qu'il y a du danger dans l'air, c'est le rapport Chine-États-Unis. Une république impériale sur le reculoir, et là aussi, un empire en train de se transformer en nation. Là, l'interaction est dangereuse, elle aussi. Et étant donné le poids des protagonistes, je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faudrait regarder de près. Il y a eu, par ailleurs, il y a eu comme ça. C'est pas un argument déterminant.
Mais c'est une forme plus récente relativement par rapport à l'ignorance et les sultanats. Parce que même avant l'arrivée de l'islam, on a des sultanats, on a l'empire,
Bien sûr. L'empire n'a pas attendu l'islam dans la région.
À la place des autres religieux. Quand, par exemple, la fermeture du canon sacré en islam a été prononcée par un calife, parce qu'il était au-delà des religieux qui existaient, qui étaient là. On n'a pas l'équivalent de calife dans le pays chiite, parce que les religieux chiites sont très puissants. Donc, le calife, c'est plutôt quelqu'un qui a le pouvoir concentré au même endroit. Alors que le sultan, c'est quelqu'un en persan ou bien dans le pays arabe aussi, le sultan n'a pas la prétention religieuse. C'est, il y a une instance religieuse qui décide et lui, il fait, en fait un peu de prédit. C'est mélangé, évidemment, parce qu'il est le représentant du nombre de Dieu, mais quand même, il y a des religieux qui sont là pour l'unité, alors que personne ne peut l'unité qu'elle dit. Et en même temps, le calife n'est pas quelque chose aussi, n'est pas quelqu'un de très important, parce que chaque ville, par exemple, à l'époque, on parle de, dans les mille et une nuits, dans les versions récentes de mille et une nuits, on a des définitions différentes entre les trois. Parce que, par exemple, le calife de Bassora s'entendait très bien avec le calife de Bagdad, et en même temps, les gens, chaque ville avait son calife. Alors que le sultan, encore dans les mêmes villes, on trouve qu'on a 15 au sultan pour chaque pays, normalement, ils étaient en guerre. Et dans les versions anciennes des millénaires, on n'a absolument pas l'équivalent de calife. On ne parle pas du calife. C'est à partir de l'arrivée de l'islam qu'on commence à parler des califes. Aujourd'hui, peut-être la définition que l'État islamique de Daesh donne du califat, c'est totalement moderne, parce qu'au début, ce n'était pas du tout ça.
Non, mais c'est pas. Tout ça me semble en effet à prendre en compte. Je dirais, le califat, c'est la version islamique de la forme politico-religieuse de l'Empire. Donc il a une particularité, mais ça ne l'empêche pas de relever d'un répertoire général où la dimension impériale est très repérable. Je crois que c'est pas, il n'y a pas d'incompatibilité. Au contraire, hein, encore une fois, ce qu'il faut mesurer, comment dire, si on prend la gradation des trois formes, cité, royaume, empire, la cité, c'est la forme minimalement religieuse. C'est celle qui peut même devenir quasi séculière. Exemple, la Grèce antique. La cité, elle est très religieuse, en fait, mais c'est le religieux minimal, c'est-à-dire qu'il ne perturbe pas le fonctionnement politique éventuellement, ça va donner, ça rend possible la démocratie athénienne. Le royaume est moyennement religieux, mais l'empire est maximalement religieux, justement. C'est dans l'empire que l'unification religieuse du ciel et de la terre, du divin et de l'humain, prend son sens. C'est pourquoi je pense que le califat comporte une dimension impériale, relue à la lumière des spécificités de l'islam, bien sûr, mais tout à fait indiscutable.
Il y a un équivalent en islam, c'est Umma, et Umma, un guide, qui s'appelle Imam. Et c'est l'Imam qui est l'empire, parce qu'il a la vocation impériale, il a la vocation universelle, il veut...
Ben, ça, c'est une lecture très particulière de l'imana, alors qui, elle, est moderne et qui me paraît venir plutôt dans le vide du califat, que pour des raisons historiques, n'a plus beaucoup de sens, parce que l'imam, c'est celui qui guide à tous les niveaux, même le plus petit niveau, même celui de la communauté, de la mosquée locale. Bon, donc, si vous voulez, ça n'a pas, c'est pas une figure politique, il peut le devenir dans un certain contexte.
Ça, c'est chez les sunnites.
Oui, oui, non, bien sûr. Ah ben là, pour... Non, mais le schisme est eschatologique. Et c'est ça qui change tout. C'est-à-dire que c'est à la fin des temps que le retour de l'imam caché réglera tous ces problèmes. Mais c'est une variante très particulière. Hein. C'est, à mes yeux, l'imam caché, c'est le calife eschatologique. Je vous en prie.
Comment doit-on rapprocher et comprendre l'individu de droit par rapport au concept de sujet dont vous avez, sur lequel vous avez dialogué avec Alain Badiou dans cet été. Lui parle du sujet d'une façon intéressante, un petit peu inquiétante, quand on est attaché aux libertés, il parle du caractère étroit des libertés, une formule qu'il ne peut pas quitter. Et vous-même, vous avez un long développement sur ces sujets. Je ne vois pas bien le rapport, ou peut-être mal le rapport entre les deux, les droits et les sujets de l'histoire.
Alors, ce n'est pas une question à laquelle on répond en deux minutes, et j'espère bien que nous aurons l'occasion de la développer comme il convient, dans les termes appropriés, parce que il y a un rapport et c'est pas la même chose. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre de façon très précise. Mais c'est pas encore une fois quelque chose qu'il y a du sens à développer comme ça en improvisant 5 minutes. Alors continuez. Profitez.
Sur la Russie, si vous mettez en cause les Européens d'une façon assez vive.
Désespéré, pour être plus exact.
Il me semble quand même que, si je puis dire, les premiers coupables dans cette affaire sont les Américains et la politique néoconservatrice, la vision idéologique de la politique étrangère, où on juge le régime sur la base de principes idéologiques, enfin, on connaît les tests parmi les gens qui sont des acteurs de cette opération américaine, qui sont des gens très proches du conservateur, et je ne veux pas dire que c'est très bien, c'est peut-être très opérationnel dans les actions sur l'Europe, par exemple.
Non, on est tout à fait.
Et leur influence sur l'Europe, la pression sur l'Europe notamment, a été manifeste à tous les gars.
Je suis entièrement.
On est plutôt coupable de faiblesse que de bêtise.
Ça peut aller très bien ensemble. Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne voulais pas donner un développement complet de la chose. Mais ce qui me paraît encore plus grave, c'est le fait que par rapport... Nous avons là un pays, l'Ukraine, qui est en Europe, et qui demande, qui est candidat à l'entrée dans l'Union européenne, ce qui en fait donc au plus haut degré une affaire européenne. Et c'est en effet derrière les autorités américaines qui sont à la manœuvre, et les autorités américaines qui ne sait pas forcément le président des États-Unis. Et en l'occurrence, pas du tout, je pense. C'est effectivement d'une part les militaires de l'OTAN. C'est l'OTAN qui a piloté toute cette affaire là, à beaucoup d'égards.
Elle a besoin de moyens d'exister.
Ben voilà, entre autres choses. Et pour une fois, ils ont quelque chose à faire. Donc, on ne va pas rater d'aussi belle occasion. Et puis, par ailleurs, ils ont en effet une sorte de projet stratégique assez aberrant, je pense, qui est dont le but est tout simplement, c'est le versant occidental du containment de la Chine. Donc en fait, le but, c'est de faire tomber Poutine, hein, c'est pas compliqué, de façon à mettre à Moscou quelqu'un qui soit plus susceptible d'une politique de prise en tenaille des Chinois qu'on tient par ailleurs par le Pacifique en ligne directe. C'est ça le but. Donc évidemment, ce qui est dramatique, c'est que les Européens laissent faire tout ça sur leur terrain sans avoir la moindre idée originale à faire valoir et sans avoir aucune analyse d'une situation qui a tout pour leur être assez familière. Voilà, c'est tout ce que je voulais suggérer.
Oui, il y a une politique, si vous permettez, une politique qui a pour résultat aujourd'hui à Moscou de rapprocher du pouvoir les gens qui sont exactement à l'encontre de ce but posé, puisque évidemment les durs les plus anti-américains qui sont en train de prendre.
À vivre. c'est l'habitude. On sait, le scénario est cousu de fil blanc et répertorié depuis très longtemps. Ce genre de politique conduit toujours aux effets opposé. Il n'y a aucun mystère sur ce chapitre.
Comme on a mis les chiites au pouvoir avec
l'âme. Eh bien, évidemment. avec la même intelligence lumineuse des situations et des prolongements. Bon, voilà. C'est ça que je trouve, effectivement, dramatique. C'est pour ça que j'insistais sur l'impéritie européenne. Mais ça n'empêche pas que l'élément que vous indiquez soit effectivement déterminant dans la situation.
Dépassement d'État-nation et avec toute une
Je ne sais pas si ça serait leur intérêt au sens strict du mot tel qu'ils l'entendent, mais j'ai l'immodestie de penser qu'on y gagnerait tous, au-delà de leur intérêt à eux. Il faudrait faire une histoire du projet européen dans ses rapports avec la forme État-nation. Bon, le point de départ est assez clair. C'est le projet européen, c'est le projet de formation d'un État-nation de rang supérieur dans un contexte stratégique bien déterminé, qui est celui de la guerre froide, où se mêle une note humaniste, qu'il faut au moins qu'on cesse de se livrer des guerres fratricides entre des peuples qui ont tout pour s'entendre, spécialement la France et l'Allemagne. Mais quand on dit qu'on a fait l'Union européenne pour la paix, il faut quand même se rappeler qu'on l'a faite pour la guerre. Mais la guerre, c'était pas la guerre intra-européenne à l'époque. C'était la guerre de l'Europe destinée à se jouer sur le champ de bataille européen avec l'Union soviétique. On a fait l'Europe pour faire la guerre à l'Union soviétique, le cas échéant. C'est pas nous qui allions les attaquer, mais on attendait leur... On a vécu pendant longtemps dans l'idée du déferlement des chars soviétiques jusqu'à Brest. Et c'est précisément à ça qu'il s'agissait de résister. Mais alors, à ce moment-là, en réalité, le projet européen est un projet tout à fait classiquement stato-national. C'est les États-Unis d'Europe. C'est le pendant sur le sol européen de ce qu'ont été les États-Unis sur le sol américain. Alors, on n'osait pas trop le dire, mais si vous prenez les institutions européennes, elles ont été entièrement définies dans cette lumière, comme un embryon d'État-nation nouveau. Et puis ce projet a évolué à partir des premiers élargissements, en fait, avec l'entrée de la Grande-Bretagne. Ça devient douteux, mais c'est encore imaginable. Mais quand on s'élargit au pays de l'ALE, de l'Association de libre-échange, ça devient déjà douteux. Après 90, ça n'a plus de sens. C'est à ce moment-là qu'on a l'idée du post-national, qui devient un projet transatlantique, en fait. Parce que ce post-national est supposé se jouer symétriquement par abaissement de la dimension stato-nationale et aux États-Unis et en Europe. Là, c'est l'ère du post-national. C'est-à-dire, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais ça paraît un mouvement de l'histoire. Ça s'arrête en 2001, tout simplement parce qu'en 2001, ce qu'on découvre, c'est que les États-Unis sont une nation et ont l'intention ferme de le rester. Et puis, ils ne sont pas tout seuls. En gros, le reste du monde est pareil. Si vous allez parler du dépassement de l'État-nation aux Chinois, je suis pas sûr que vous seriez accueillis avec enthousiasme. Et on peut faire le tour du monde, on ne trouvera pas beaucoup d'équivalents. Et du coup, tout simplement, les Européens, ils savent plus ce qu'ils font. Voilà, c'est ça la situation actuelle où nous sommes. Il faut redéfinir cette dimension, et par rapport au reste du monde de préférence, et pas entre nous, parce que... C'est du reste du monde que d'où vient la lumière, bel et bien, dans ces matières, que nous le voulions ou non, aujourd'hui c'est clair. Nous sommes dans ce trou noir. En fait, on ne sait plus ce que nous voulons, il n'y a plus de projet politique européen, sinon le maintien de l'acquis, mais qui n'est pas viable, manifestement, qui est dysfonctionnel de partout, pour diverses raisons.